Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
C'est une histoire de type distraction. Ça arrive dans toutes les campagnes électorales. Ça arrive quelques fois par semaine dans une campagne électorale. C'est un sideshow, comme on dit. Et là, c'est la candidate du Parti québécois pour la circonscription de Laval-des-Rapides, Andréane Fiola, qui a une maîtrise en environnement. C'est une jeune femme qui est impliquée en politique depuis longtemps. Elle a tenté de se faire élire comme conseillère municipale aux dernières élections municipales à Laval. Elle s'est enrôlée comme membre du Parti québécois à l'âge de 16 ans. Et là, il y a une vidéo d'elle qui a circulé, semble-t-il, sur des plateformes pornographiques. Elle aurait participé à une séquence de 12 minutes. Une histoire de deux filles, un gars. Elle était masquée, OK, parce qu'elle voulait pas être identifiée. Et il y a quelqu'un qui a appelé le journal local, le Courrier Laval, et qui a dit, « Hey, regardez cette vidéo-là, c'est la candidate dans Laval-des-Rapides et le journaliste qui a sorti tous les outils qui sont disponibles dans le coffre du journaliste d'enquête. La fille avait un masque. Et comment l'a-t-il identifié? Grâce à ses tatouages. Elle avait un tatouage à l'intérieur du bras droit, si je ne me trompe pas. Et il a pu comparer le tatouage de la dame et le tatouage de la femme qu'on voyait dans la séquence pornographique. Donc, grand débat, est-ce que des filles qui ont fait des séquences pornographiques comme ça devraient être candidates dans des élections au Québec? Maude Goyer, notre chroniqueuse de Société, Tendance et Famille, j'espère que tu vas pas te défendre le manque de moralité de cette candidate.
Ouais, c'est ça, tu me connais, Pat, écoute, épouvantable.
Mais nos enfants?
Ben non, écoute, moi, je suis choquée, en fait, que ça ait sorti parce que je pense que c'est pas d'intérêt public. Moi, je pense que c'est de la vie privée. La preuve, la fille, elle s'est masquée, donc elle voulait pas être identifiée. Parce que le nœud de cette affaire-là, en fait, si on regarde ça d'un point de vue d'intérêt public, de journalisme et de vie privée, c'est dans quel contexte ça a été fait. J'ai parlé avec Marc-François Bernier, professeur en communication à l'Université d'Ottawa, qui est spécialiste de l'éthique en journalisme. Puis il me disait, tu sais, dans le fond, si c'est fait de façon privée, dans le fond, elle est victime. C'est un cas d'abus. Ça n'aurait jamais dû sortir. Si ça a été fait d'un contexte commercial, donc ça veut dire qu'elle en voulait en tirer des profits puis elle voulait que ce soit public, ça veut dire qu'elle a cédé ses droits à la vie privée, donc elle doit en assumer les conséquences. Il y a un genre de flou, parce que dans son mot, Madame Fiola a dit qu'elle ne voulait plus que ça soit sur les plateformes et elle ne voulait plus que sa vie intime soit exposée ainsi. Donc, elle l'a déjà voulu, mais par contre, elle était masquée. Donc, ça démontre qu'elle voulait rester anonyme. Alors, je pense qu'on est vraiment dans un cas où ça n'a aucun rapport que ça soit sorti. C'était effectivement sa vie privée. Je trouve ça très... Il y a un côté de moi qui est comme c'est une femme, elle se fait ramasser, c'est une jeune femme, jeune, jolie femme. Qui a appelé pour donner l'information? Le journaliste du Courrier de Laval, est-ce que c'était vraiment nécessaire de le sortir? On n'est jamais dans l'obligation de sortir une histoire, on le sait, hein, Pat? Puis aussi, je me demande, l'avocat, il a dit qu'il a parlé à l'avocat, mais on n'a jamais su qu'est-ce que l'avocat avait dit de la jeune dame, parce qu'elle l'aurait référé. Et il y avait son ancien chef aussi qui a dit que s'il avait su ça, il n'aurait jamais embauché. Ce qui m'a choqué,
ça me choque. Pour préciser, son ancien chef, c'est Michel Trottier, qui était candidat à la mairie de Laval, et cette jeune femme-là, Andréane Fiola, était dans son équipe, voulait se faire élire comme conseillère. Lui, M. Trottier, est désormais candidat libéral pour l'élection dans une autre circonscription, et il a dit exactement ça. Si j'avais su ça, je l'aurais jamais embauché.
Ça m'a choqué quand j'ai lu l'article. C'est ça qui m'a sauté aux yeux. Tout comme le lead de l'article dans le premier paragraphe qui dit qu'elle est dans l'eau chaude. Est-elle vraiment dans l'eau chaude?
Attends,
pour vrai,
attends,
là.
Attends, OK. Je vais te lire. Regarde. D'abord, l'article, OK? L'article du Courrier Laval.
C'est un torchon.
Ça commence comme ça. Un informateur du public a informé le Courrier Laval quant à la participation à un film pornographique d'Andréane Fiola, candidate péquiste dans la circonscription de Laval-des-Rapides. Un informateur du public.
Mm-hmm. Hey, ça se peut que ça soit quelqu'un en politique, peut-être?
Je sais pas, mais c'est en fait, sais-tu quoi? Ça peut juste être quelqu'un qui voulait la faire suer, qui savait qu'elle avait fait ça, et qui a... C'est pas un informateur du public. Déjà là, je trouve qu'on étire un peu la sauce.
Effectivement, oui, vas-y, continue. Le titre, c'est quelque chose aussi.
MC dit c'est un torchon, OK? Un torchon. Bon, une candidate du PQ à Laval dans l'eau chaude, parfait. Il y a la photo avec, on a fait un rond sur le tatouage, c'est juste pour s'assurer qu'on va le voir. Et puis, après ça, plus loin, là, quand Michel Trottier, son ancien chef de parti à Laval, est interrogé, la phrase du journaliste, c'est « L'ancien chef du parti Laval, Michel Trottier, aujourd'hui candidat libéral dans Sainte-Rose, est littéralement tombé des nues. Mm-hmm. » Tu sais, il pouvait pas s'empêcher de mettre cette phrase-là.
Ouais, c'est ça.
Et règle de français de base, là, quand tu dis un informateur à informer, là, il y a des synonymes.
Oui, c'est ça.
Continue.
Mais non, donc c'est ça. La vie privée, là, c'est quoi la vie privée? C'est quand tu as un comportement, des actes dans l'intimité qui n'a pas d'impact indésirable sur d'autres personnes. Puis c'est pas illégal. C'est fait de façon consentante, consensuelle, entre adultes. Ça se dit, il y a toujours un risque que ça devienne public. Mais elle s'était masquée. C'est la preuve qu'elle voulait pas que ça devienne public. Puis c'est là que j'ai vraiment un problème parce que dans le fond, la pornographie, c'est pas illégal, hein? La pornographie, c'est la pornographie devient illégale quand c'est à caractère obscène de façon majoritaire dans le film ou la vidéo. Donc obscène, on parle de bestialité, on parle de violence, on parle de juvéniles qui sont impliqués. Sinon, ce n'est pas illégal au Canada, ce n'est pas criminel. Donc la dame fait ce qu'elle veut et selon moi, ça ne dit rien, absolument rien sur la valeur de cette candidate-là, ni sur ses valeurs qu'elle a eues, qu'elle a maintenant. Donc il faut, puis il y a oui, il y a une part d'hypocrisie aussi. Dénoncer ça, je veux dire, 99,999% des gens voient de la pornographie.
Maud, il y a eu une étude, une tentative d'étude de l'Université de Montréal il y a quelques années. Okay? Ils cherchaient des hommes qui n'avaient jamais consommé de pornographie. On voulait faire une recherche là-dessus. Ils n'en ont pas trouvé.
Ils n'en ont pas trouvé. Même les ados, maintenant, Pat, 12-17, c'est comme 75% des jeunes 12-17 ont vu de la porno. Ouais. Fait que là,
mais là, on mélange plein de dossiers. Moi, je ramène ça à la base. Elle l'a fait de manière consentante.
Oui.
Je pense que Maud, tu es féministe, tu vas le dire mieux que moi. Une femme peut faire ce qu'elle veut avec son corps. C'est son choix.
Et c'est sa vie privée.
Est-ce que ça influence sa candidature? Non. Est-ce qu'on voulait lui nuire en publiant ça? Bien sûr.
Bien sûr.
Est-ce que le journal avec ça fait un viral, ce qui fait qu'il va battre en ce moment tous les records de clics qu'il n'a jamais eu? Oui. Est-ce qu'il va faire de l'argent en publicité avec ça? Oui. Est-ce que...
Ça a été repris par tous les médias aussi.
Est-ce que tout ce que je viens de dire est mal? Bien sûr. Est-ce que c'est journalistique? Non. En résumé, je trouve ça dégueulasse.
OK, mais en même temps, je veux juste faire une petite parenthèse. Tu sais, elle a quand même fait le film porno. Moi, je pense que quand tu délibérément, tu fais un choix de participer à un film porno, ça se peut, ça sache après. Je veux juste vous dire, il y a quelque chose. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça personnellement, moralement. J'ai tout ce que vous avez expliqué, je comprends ça. Mais en même temps, ça se peut que ça sorte.
C'est quand même pour lui nuire.
Maude, on a travaillé ensemble au Journal de Montréal. Tu as été journaliste dans une salle de rédaction, puis il y a toutes sortes de gens qui appellent pour toutes sortes de choses. Puis, comme je dis souvent aux gens dans des cas de jugement de nouvelles, c'est souvent du cas par cas.
Oui, okay? C'est du cas par cas.
C'est du cas par cas. Tu regardes ça là, en toute collégialité avec les collègues, puis tu te fais une tête. Puis, les gens vont souvent nous reprocher des choses qu'on choisit de diffuser. Et c'est totalement légitime. La critique vient avec le travail. Les institutions médiatiques sont pas au-dessus de la critique. Parfait. Mais les gens savent pas à quel point on fait parfois on a des réflexions. Il y a des trucs sur lesquels on a beaucoup réfléchi qui ne mènent pas à une publication.
Effectivement.
Je vais te donner un exemple. Je vais te donner deux exemples. Okay? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé et me dit « Tel artiste a déjà été danseuse nue, monsieur. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Qu'est-ce qu'on va faire, là?
Ouais.
On va faire un dossier sur le fait que X a déjà été effeuilleuse.
Est-ce que ça change quelque chose à son métier en ce moment?
Je ne pense pas. OK? Mm-hmm. Une autre affaire. Il y a quelqu'un qui m'envoie des copies de textos qui ont été obtenus, je ne sais pas quoi, entre un personnage public et sa maîtresse. Écoute, je me sentais sale. C'est comme...
Juste des lire, ouais.
Non, mais sale, je me suis pas attardé, là, pour vrai, là, c'est pas le genre d'affaire qui m'intéresse, mais tu penses que je vais publier ça? Tu penses que je vais plonger là-dedans? Il peut avoir des cas, comme je dis, c'est du cas par cas. Si le personnage public en question a un rapport d'autorité, s'il a forcé quelqu'un... S'il est allé à l'hôtel avec les fonds publics avec sa maîtresse, il y a une autre dimension. Mais des fois, les très bonnes décisions qu'on prend en journalisme, des fois, c'est de pas publier. Ça, cette décision-là de publier ça, honnêtement, là, à part les clics, je sais pas c'est quoi.
Pat, atteinte à la réputation, à la dignité, là, ça pourrait mener à d'autres choses, là, parce qu'écoute, c'était pas d'intérêt public. Ah, j'ai parlé avec Pierre Trudel aussi, professeur de droit à l'Université de Montréal, spécialiste de la vie privée et de l'intérêt public, puis il me disait quelque chose de très intéressant par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a des variations puis des mutations dans le temps quant à ce qui est d'intérêt public ou pas. Il me parlait, par exemple, des comportements sexuels avant qui étaient vraiment dans le domaine privé, puis maintenant, si une personne publique est soupçonnée d'avoir des comportements sexuels jugés inacceptables, maintenant, c'est d'intérêt public, on l'a vu, pour toutes sortes de raisons dans l'époque dans laquelle on vit. Donc, il y a des variations aussi. Oui. Puis ça dépend d'un média à l'autre. Il y a un média qui va trouver quelque chose de très important, l'autre va trouver ça dérisoire. Puis c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de médias puis qu'il y a toutes sortes de traitements. Dans ce cas-ci, j'ai parlé avec les deux spécialistes et les deux m'ont dit peut-être que ça n'aurait pas dû être publié.
Mais MC, vous avez pas peur, vous, il y a une vague de néo-puritanisme. C'est pas les questions d'agression, pas tout ça. Mais... dès qu'on parle de pornographie, des choses qui existent, et là, je trouve qu'on prête beaucoup d'intention à un paquet de gens sur leurs valeurs morales. Tu parlais, par exemple, d'adultère. Tu parlais on parle ici de faire de la pornographie, les gens qui partagent avec consentement des photos sexuelles. C'est leurs affaires.
Mm-hmm. Ben oui, qu'est-ce que ça dit sur quelqu'un? Ça dit absolument rien, sauf que elle a peut-être des comportements sexuels dits hors normes ou plus marginaux dans une moyenne, mais ça veut dire quoi de la personne, de ses valeurs, de ses qualités, vraiment?
Tu sais, je pensais qu'on avait réglé ça. Le père de Justin disait, ce qui est dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher. C'est pas une de nos affaires. Et cette vague-là de puritanisme, je pensais pas voir ça.
Hey, mais va pas
je pensais qu'on avait déglé ça.
Non, je suis 100% d'accord avec toi. Tu te souviens de Ruth Hélène Brosseau aussi, hein, qui avait été serveuse dans un bar un peu crade, je pense.
Ah ben oui,
là.
Celle qui a été députée du NPD, oui.
Est-ce qu'elle a été une bonne députée? Est-ce qu'elle a été aimée?
Oui.
Elle a été adorée pendant 8 ans. Bon, alors ça veut rien dire sur le leadership puis les compétences d'une personne et ses habiletés.
Et on va dire aussi, c'est parce que, tu sais, mettons, c'est une femme, parce que si c'est un gars, mettons un gars, un député, probablement tous les députés qui se présentent en ce moment masculins, sont-ils déjà allés aux danseuses? OK, ça, on va sortir. Vous voulez jouer à ce jeu-là? On va tout passer
ouais,
tout le monde.
Ça, mais toi, je pose la question.
D'intérêt public?
Si j'avais fait un film porno, Pat, est-ce que tu m'aurais engagé?
Je pense que oui.
Oui, tu aurais pris cette chance-là?
Mais quand... Si tu avais fait une carrière en porno,
c'est ça.
Film, oui, pas une carrière.
Non, mais un film confidentiel où qui était inconnu. En fait, la question, c'est pas ça. La question, c'est, disons que je t'avais embauché dans l'émission, puis que 3 semaines après, quelqu'un m'avait envoyé ça en disant, ah, regardez, je l'aurais envoyé je l'aurais envoyé promener. Ouais. Tu comprends? Mais c'est encore une fois, c'est du cas par cas.
Mais l'autre affaire, c'est est-ce que c'est lié au mandat? T'sais, si Catherine te tournait une vidéo privée, porno, tu fais de la culture, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on te demande, ça n'a pas de lien.
Moi, je pense que, bon, évidemment, c'est du cas par cas. Si on l'apprend après coup, je suis déjà engagée, je suis déjà en fonction, j'ai déjà quand même prouvé que je suis capable de faire mon travail, probablement peut-être que je serais défendue, mais je pense pas, moi, qu'on m'aurait engagée sachant ça avant. C'est ce qui est pour moi le volet le plus peut-être hypocrite de la chose.
Mais tout est dans le contexte.
En connaissance de cause, je pense que les gens veulent s'éloigner parce que la personne devient radioactive.
Donc, si quelqu'un a fait un film porno quand elle avait 22-23 ans, techniquement, il faudrait qu'elle le dise puis qu'elle ne sera jamais engagée. Elle ne pourra jamais se faire dans un temps politique.
Je ne dis pas qu'il faut absolument qu'elle le dise, mais je te dis que si c'est connu, cette personne-là devient radioactive, puis je pense que n'importe quelle sphère publique veut plus se coller.
Ça dépend. Je pense que le côté moral a évolué, puis je pense que participer à un film porno, vraiment, là, si ça a été privé, que ça n'a pas été fait dans un contexte qu'on veut que ça soit comme ça, je vais être payé pour, puis je m'expose. Oui, c'est pas de ça qu'on parle.
Et de manière consentante.
Exactement.
Puis si j'ai bien compris, là, mais corrige-moi, je me trompe, Maude, là, je pense qu'il y a un petit flou là-dedans, là. Elle a dit qu'elle voulait pas que ce soit diffusé, mais...
Voici ce qu'elle a dit. Ouais. Je vais le dire, OK? On a le temps, je vais le dire. Elle a dit, il y a plusieurs mois, j'ai participé à la production de contenus numériques explicites qui ont été diffusés sur plusieurs plateformes pour adultes. Ces actions étaient réalisées sans montrer mon visage afin de préserver mon anonymat. Bien que j'assume entièrement mes actions et mes choix, le contenu a été retiré à ma demande il y a un moment puisque je ne veux plus exposer mon intimité. Elle ne veut plus. Je suis désolée pour les conséquences sur mon entourage et je ne referai jamais ce type de choix. Donc, mais elle était masquée. Elle ne voulait pas être identifiée.
Mais,
c'est clair.
Mais c'est que ça vient avec un jugement. ça vient qu'un jugement très dur moralement. OK, tu sais, on voit les commentaires passer. Puis je reviens à ça. L'Université de Montréal a voulu faire une étude sur les hommes qui ne consomment pas de porno. Ils n'en ont pas trouvé.
On n'est pas hypocrite du tout aussi, là.
Tu sais, ça te fait... Il y a bien des gars qui la jugent présentement.
Ouais.
Puis parmi ceux-là, il y en a probablement... Je sais pas combien, mais
tu peux donner un chiffre, si tu veux.
Mais qui, je sais pas, disons pas mal, là, qui se baissent les culottes et qui se font plaisir.
C'est ça.
Mais après ça, elle avait dans la vie publique, elle s'est cachée pour garder son anonymat, mais c'est pas une bonne personne.
C'est ça, exactement. Hey, come on.
Il y a comme quelque chose qui marche pas dans les deux propositions.
Mais c'est un bon exemple, très contrasté, là. Le professeur Pierre Trudel me disait que c'est quelque chose qu'il va retenir pour ses cours parce que c'est très fertile en termes de réflexion et de questions.
Très fertile, en effet. Écrivez-nous, 98985, c'est très divisé dans la messagerie. Maud, je te souhaite une excellente fin de semaine.
Non, je reviens tantôt.
Tu reviens tantôt?
Ben oui, je vais être là pour le quiz.
Oh yes.
Tu restes jusqu'au quiz?
Oui, ben j'ai plein d'affaires à faire, fait que je vais rester proche.
OK, merci, on se retrouve tantôt.
Ciao.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Mon ami Maxime Penneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, n'est plus en politique. Il est désormais chroniqueur à la presse, signe depuis quelque temps des textes sur l'actualité, son point de vue sur l'actualité. Très bonne chronique aujourd'hui sur les Québécois et l'immigration. Maxime Penneau-Jobin est au bout du fil. Salut Max!
Salut!
Écoute, t'as choisi comme titre de chronique les mots suivants, c'est une citation. « Ce n'est pas haïr l'autre que d'aimer son peuple », c'est une citation de l'ancien président du Sénégal, poète, écrivain, Léopold Sédar Senghor. Pourquoi?
Ben parce que souvent, on se débat là, puis malheureusement, parce que c'est un débat qui est essentiel, qui est important pour le Québec, s'enfonce immédiatement dans des étiquettes. T'sais. C'est comme si tu veux défendre un certain Québec, tu es nécessairement contre les autres. Et ça, moi, je dénonce ça. Moi, il y a un Québec que j'aime, puis j'ai pas le goût que je change. puis ça, ça fait pas de moi quelqu'un qui est contre l'immigration. Puis c'est ça que j'essaie de passer comme message dans c'est que c'est un débat qui doit se faire avec nuance. T'sais, on doit accueillir l'autre, on doit, oui, se transformer puis changer, mais c'est correct de dire qu'il y a un bout qu'on veut pas qu'il change. Puis le plus bel exemple, c'est la langue française. Si ça disparaît, il y a une part du Québec que moi j'aime qui disparaît. Puis ça, c'est une perte pour le Québec, mais c'est une perte même pour la planète, parce que le Québec est intéressant là, sur la planète.
Ta chronique était... toi et moi, on a déjà eu des discussions là-dessus. Là. Je sais que ça fait longtemps que tu penses à ça, la place de l'immigration, la place des immigrants. Mais le point de départ de la chronique, c'est ce que François Legault a dit cette semaine, des propos où il a fait le lien entre la violence et l'immigration. Quand la poussière est retombée, je me suis dit, quand est-ce qu'on va être capable d'avoir... des débats qui sont sereins sur l'immigration?
Ben, il faut que tout le monde fasse des efforts. Puis moi, ce que je trouve assez étonnant, là, c'est que quand on est premier ministre, tu sais, qu'un citoyen fasse une erreur, n'utilise pas le bon mot, tu sais, ça choque un peu parce qu'il tourne les coins un peu ronds. Moi, je suis prêt à tolérer ça. Il y a bien des citoyens qui m'ont dit bien des affaires qu'ils n'auraient pas dû dire dans ma carrière, mais le citoyen, c'est pas un politicien d'expérience. M. Legault, pour moi, il a fait une erreur qui est assez grave. Quand tu abordes un sujet comme ça qui est délicat, qui peut blesser les gens, qui est important pour le Québec, ben la moindre chose qu'on puisse faire, c'est de bien choisir ses mots. Puis ça, pour moi, il a fait un amalgame honteux, mais il a aussi fait une erreur politique. Et quand tu abordes ce sujet-là, il faut que tu te prépares. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a de la misère à débattre de ce sujet-là, c'est que dès que quelqu'un n'utilise pas le bon mot, puis là, je vais avoir l'air de faire ce que je reproche aux autres, là, mais tu sais, on y saute dessus. Pour ça que moi, j'ai commencé en disant, il a fait une erreur, mais après ça, j'ai essayé de dire, voici ce qu'il aurait dû dire. Tu sais, voici comment le débat devrait avoir lieu au Québec. Puis je trouve ça plate, en fait, qu'il a fait cette erreur-là, parce qu'on était plutôt bien partis. Tu sais, les partis s'étaient prononcés sur les seuils d'immigration, il y avait des chercheurs qui se prononçaient, puis là, ben une erreur comme ça, une maladresse importante, là, puis ça dérape.
Et tu le soulignes, le Québec, c'est un endroit qui est accueillant. On accueille beaucoup d'immigrants quand on se compare proportionnellement à d'autres pays, là. C'est pas comme si on était fermé à l'autre.
Non. Puis il y a deux choses. C'est que d'abord, on accueille per capita plus de monde que les États-Unis, la France, l'Italie. Là, vraiment, on est parmi ceux qui en accueillent le plus dans le monde. Mais on est aussi parmi les nations pour qui c'est le plus délicat de faire ça. Puis je vais regarder l'exemple de la langue. On est 2% de l'Amérique du Nord. Là. Tu sais, le français est pas mort au Québec, mais il va toujours être menacé, puis il pourrait mourir. Il y a des langues qui meurent chaque jour. On va prendre du temps parce qu'on a une certaine force. Mais il y a une menace quand tu es 2% de l'Amérique du Nord que dont on doit tenir compte. Puis dire ça, là, c'est pas être contre l'autre. Dire ça, c'est dire, ben, il y a une grande aventure québécoise en Amérique du Nord qui est assez extraordinaire, puis qui est étudiée dans des chaires de recherche un peu partout dans le monde. On a une culture originale, là, notre cinéma, notre poésie, notre théâtre, notre télé. Ben ça, on enrichit nous autres aussi le monde. Puis vouloir garder ça, vouloir continuer, vouloir que ça continue, c'est pas être contre les autres. C'est aimer, c'est comme Sangor le dit, c'est aimer son peuple.
Où tu traces la ligne entre les préoccupations légitimes quant à l'immigration, qui est un sujet explosif, puis le discours qui tombe dans vraiment le repli identitaire, la xénophobie, le rejet de l'autre? Et où la ligne? Qu'est-ce qui allume des lumières sur ton tableau de bord quand quelqu'un parle d'immigration?
Ben, je vais dire quelque chose que peut-être peu de gens vont être d'accord, mais pour moi, c'est... Oui, il y a des lumières qui s'allument, puis il faut rabrouer les gens qui font des erreurs. Mais en matière de relation avec l'autre, là, surtout un autre qui est différent de nous, là, c'est plus important de dialoguer que d'utiliser les bons mots. Si on saute au visage à chaque fois, puis qu'on allume des lumières, puis qu'on dénonce, à un moment donné, on n'en parlera plus. Alors que sur le terrain, pour que les gens s'entendent bien, pour qu'ils vivent ensemble, pour que on construise ensemble une société commune, ben, faut toujours bien qu'on se parle.
Donne-moi des exemples de mots qu'on reproche à des gens, puis on devrait peut-être passer notre chemin quand ces mots-là sont prononcés.
Ben, je pense pas que c'est, tu sais, c'est... Je sais pas, moi, quand des gens disent ces gens-là, tu sais, des choses comme ça, tu sens qu'il n'y a pas une très grande ouverture, là, ben, on peut-tu continuer à discuter, tu sais, si je... Pour moi, c'est important qu'on échange, puis qu'on se... T'sais, moi, on avait fait un sommet sur le vivre ensemble à Gatineau, puis ça avait été vraiment bon, parce qu'il y a un immigrant, quelqu'un d'origine issu de l'immigration, disons, le capitaine Gatineau, je ne sais pas combien de temps, il dit là, la ville de Gatineau, arrêtez de faire des activités interculturelles, on se retrouve juste entre nous autres. Les gens qui ont issu d'immigration. Il dit, moi, je veux rencontrer mes voisins, je les rencontre pas. Fait qu'il dit, financer des activités de quartier pour que tout le monde se retrouve là et qu'on se parle. Ben, il y a ça aussi, là. Il y a parfois des gangs, là. Tu sais, il y a la gang du multiculturel puis les autres, alors qu'on devrait tous être des Québécois en train de se parler. Ah, je vais donner un autre exemple. Quand on demande, tu viens d'où? Hey, on va pas se choquer parce que je t'ai demandé d'où tu viens d'où, là.
Hey, Max, t'as raison, tu mets le doigt sur quelque chose. Moi, j'ai déjà vu des débats où il y a des gens qui disaient on devrait pas demander ça. Et c'est pas nécessaire. Exact. C'est pas une agression. C'est pas forcément négatif de demander tu viens d'où. Ça peut être juste, écoute, un signe de curiosité.
C'est de la curiosité, c'est de l'intérêt pour l'autre. Puis il faut pas oublier là, que il y a des communautés où il n'y en a pas tant que ça, de diversité, là. Puis c'est pas un problème, là, au Québec, les gens venaient pas ici parce qu'on était plus pauvres que les autres. Fait que ça a pris plus de temps avec une plus grande diversité. Fait que moi, dans mon village, là, qui est rendu une partie de Gatineau, là, qui s'appelle Buckingham, quand quelqu'un était pas blanc, c'était bien normal de demander d'où tu viens parce qu'il n'avait pas beaucoup au village. C'est de la curiosité, c'est de l'intérêt. Si on se chicane là-dessus, ben là, on se parlera plus jamais, là. Et ça, pour moi, c'est un problème dans le débat sur l'immigration. Il faut qu'il y ait plus de tolérance pour les erreurs des uns et des autres. T'sais, même notre rapport à la religion, là, le Québec est passé d'une des nations les plus religieuses au monde à une des nations les moins religieuses au monde. Ben, c'est pour ça que c'est compliqué, les débats sur la religion. Bon, ben, la personne qui arrive au Québec, nous, on a une responsabilité de comprendre d'où elle vient, puis elle a une responsabilité de comprendre aussi d'où on vient. Puis c'est ce dialogue-là qui fait qu'on va construire un Québec qui sera plus aussi homogène, qui va s'être transformé, mais qui va respecter ce que moi j'appelle la grande aventure québécoise en Amérique du Nord. T'sais. Mais s'il n'y a pas de dialogue, c'est là où on est dans le trouble. Puis on voit ce qui se passe dans bien des pays du monde, là, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Suède pendant les élections actuelles. L'absence de dialogue, ça fait bien du trouble. Puis ça, c'est ce qui me fait peur dans ces débats-là. Puis c'est là où je reviens à M. Legault, c'est quand tu es le chef, il faut que tu aies une certaine prudence pour que le dialogue se passe le mieux possible. Il faut que tu rassembles. C'est ça qu'il a fini par dire, mais il a mal commencé, disons. Puis pour moi, c'est fondamental pour l'avenir du Québec. Puis l'avenir dans nos communautés, pour que le monde on construise quelque chose de le fun, mais il faut se parler.
Vraiment intéressant. Vraiment le fun. Moi, je te connais dans le privé, mais c'est je trouve que c'est une voix vraiment intéressante que tu apportes dans les débats là, depuis quelque temps dans la presse. Merci, Max, d'avoir été avec nous.
Merci.
Maxime Penneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, désormais il n'est plus en politique, chronique dans la presse, point de vue souvent très, très intéressant sur le Québec. L'immigration, aujourd'hui, est le thème de sa chronique. Parlons maintenant d'hydroélectricité. On le sait, ça fait partie de nous, l'hydroélectricité. Ça nous a forgé comme peuple, ça a forgé notre identité, ça a permis une certaine libération économique aussi. Et François Legault a touché, disons, cette corde sensible aujourd'hui, cette semaine, en campagne électorale. Il a partagé plutôt cette semaine son désir de relancer la construction de nouveaux barrages pour répondre à la demande en hydroélectricité et pour devenir, dit-il, carboneutre. Je le cite là devant des gens d'affaires, je pense que c'est le plus grand chantier économique et le plus grand chantier écologique de l'histoire du Québec, rien de moins. Mais aujourd'hui, de nos jours, au 21e siècle, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que d'arnacher des rivières, construire des réservoirs artificiels, construire des barrages? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a différents points de vue là-dessus. Il y a eu des erreurs aussi qui ont été commises dans le passé. Et la comédienne Christine Beaulieu, que vous connaissez bien, a eu un grand succès avec une pièce qu'elle a co-scénarisée qui s'intitule « J'aime Hydro ». Ça a été un succès d'estime, ça a été un succès d'entrée du public. C'était une sorte de « work in progress », comme on dit. La première mouture de « J'aime Hydro » était pas la même que la dernière mouture. Et la démarche, c'était d'aller voir tout plein de personnes qui avaient un point de vue sur Hydro, dont des experts, pour leur demander que devrait être Hydro-Québec? Qu'est-ce que ça devrait être notre avenir énergétique au Québec? C'était très bien fait. Ça a été salué de toutes parts. J'ai pensé de l'inviter. Christine Beaulieu est au bout du fil. Salut Christine!
Salut Patrick, salut à vous trois.
Allez. Peut-être, pour les gens, Christine, qui n'auraient pas vu J'aime Hydro, comment tu leur expliquerais c'était quoi ta démarche?
Ben, c'est ce qui est important pour moi dans une entrevue comme ça où on parle précisément là, du sujet de l'hydroélectricité et de notre avenir en matière énergétique au Québec. Là. C'est important pour moi de dire que je suis pas une experte, je suis pas une spécialiste en énergie. Je suis une artiste en fait qui s'est penchée durant les 7 dernières années à bâtir un spectacle de théâtre documentaire, à se questionner on en est rendu où maintenant au Québec avec notre développement de barrages, de grands barrages, surtout hydroélectriques. Donc, ça fait 7 ans que j'ai le nez là-dedans, que je lis partout ce qui se passe. J'ai rencontré, disons, les plus grands spécialistes du Québec et du Canada. Je suis allée sur la Côte-Nord, sur le chantier Romaine. T'sais, j'ai défriché tout ça, un peu à la manière d'une journaliste comme toi, Patrick, et comme vous. Une journaliste d'enquête citoyenne, disons. Puis j'ai essayé de comprendre où est-ce qu'on était rendu avec ça.
Tu as pu interviewer des PDG aussi d'Hydro-Québec. Ouais. Qu'est-ce qui est sorti des discussions à propos des barrages avec ces PDG-là?
Ben j'ai pu rencontrer moi Éric Martel parce que quand j'ai commencé Thierry Vandal peu longtemps après a quitté. Ensuite Éric Martel est arrivé, j'ai pu le rencontrer et tout dernièrement j'ai rencontré Sophie Brochu que j'ai ajouté à mon spectacle tout dernièrement au mois d'août et ça a vraiment clos pour moi disons l'aventure créative du contenu de mon spectacle. Bon, c'est sûr que moi quand j'entends Et là, on est en campagne électorale, les partis politiques essaient de nous séduire comme citoyens et citoyennes pour qu'on vote pour eux. Puis c'est sûr que moi, la promesse de François Legault de relancer un grand barrage, c'est difficilement une promesse, disons, qui m'inspire. Qu'avec mes recherches, moi, j'ai découvert, et tout le monde le sait, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup, beaucoup à faire en économie d'énergie. Tu sais, on a un 30 TWh à économiser, c'est énorme, là, 30 TWh. Et puis, moi, je serais plus inspirée, par exemple, je dis à toutes les chefs qui sont en élection en ce moment, que quelqu'un me dise, que quelqu'un me fasse des promesses en énergie de l'ordre de passer des lois pour éviter le gaspillage au Québec. Tu sais, par exemple, en France, c'est très inspirant. Eux autres ont décidé là, de diminuer leur consommation d'électricité de 10% dans les deux prochaines années. C'est un super bel objectif. Puis, par exemple, les boutiques sur la rue, là, en plein été, canicule, maintenant, il y a des lois, ils sont obligés de fermer leurs portes s'ils font de l'air climatisé dans la boutique. Chez nous, au Québec, là, les portes sont grandes ouvertes, l'air climatisé sort dehors, les lumières sont allumées partout, on gaspille sans bon sens. Et ça, pour moi, ce serait une promesse très, très inspirante que quelqu'un me dise, moi, en rentrant au pouvoir, je vais passer des lois pour éviter le gaspillage. Parce que ça, Hydro-Québec et l'énergie ne peuvent pas faire ça. Ça, c'est le gouvernement qui peut passer des lois. Et on a besoin de ça au Québec. C'est ça qui presse le plus.
Mais il me semble avoir le souvenir, Christine Beaulieu, là, que le PDG, l'ancien PDG, Éric Martel, trouvait pas que c'était une bonne idée de construire des nouveaux barrages.
Oui, et même Sophie Brochu, je veux pas parler pour elle, mais dans notre spectacle, maintenant, elle dit que ce n'est pas dans les cartons. Ce qui se passe beaucoup chez Hydro en ce moment, c'est la réfection des vieux barrages, tu sais, parce qu'on a des vieux barrages, nous, qui ont plus de 50 ans. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus pour les optimiser. Là aussi, il y a beaucoup d'énergie à aller chercher et de capacité en faisant la réfection de nos vieux barrages. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont mobilisés à faire ça. Ensuite, le développement éolien est maintenant beaucoup moins cher que faire de la nouvelle grande hydro, parce que là, on est autour de 11 à 12 sous. Puis aussi, je me dis, mais elle est où, sa rivière, M. Legault? Je suis curieuse de savoir. Parce que la prochaine rivière dans les cartons, et moi, là, je pourrais vous parler pendant 5 heures.
La durée de ta pièce?
Ah, c'est clair. C'est très difficile de faire une entrevue radio sur ce sujet-là tellement qu'il y a de choses à dire et d'être concise. Mais tu sais, il y a plein de questions qui sont soulevées dans une annonce comme fait M. Legault pour moi, et évidemment. Mais donc, je me dis à quelle rivière il pense? Parce qu'en ce moment, la rivière MacPaille, ça va être très difficile au niveau de l'acceptabilité sociale, parce que c'est la première fois de toute l'histoire que tous les chefs de toutes les communautés inoues et de tous les élus de la région ont signé un accord comme quoi ils ne veulent pas harnacher cette rivière-là. Et je pense qu'à un moment donné, on peut pas là, ne plus être attentif et faire des choses. La rivière MacPaille, je trouve ça très difficile au niveau de l'acceptabilité sociale. Et au-delà de ça, ben Patrick, il faut construire des routes. Tu sais, je veux dire, le petit Mécatina, t'as même pas de route qui se rend là. Ça va coûter très, très cher. Tu sais, c'est des gros ouvrages. Puis il y aurait 1000 choses à faire avant ça.
Mais je recule un peu parce que tu as parlé de conservation de l'énergie. Puis ça, dans la pièce d'Angèle Hydro, je me souviens, là, ça a été abordé de façon très pédagogique. C'était très intéressant. Puis je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais il me semble qu'à un moment donné, on mentionne quelque chose de vraiment intelligent, c'est-à-dire que la meilleure façon de créer un kilowattheure, une donnée d'énergie, c'est pas d'aller construire des barrages, c'est de mieux utiliser ce qu'on a en la conservant mieux, l'énergie.
En l'économisant, en fait, l'économie d'énergie, c'est sûr. C'est ce qui coûte le moins cher, OK? Les premiers kilowattheures à économiser vont nous coûter peut-être un sou, tu sais, contrairement, mettons, à le premier kilowattheure nouveau là, de grande hydro est autour de 12 sous, là. Et donc, l'affaire la plus intelligente à faire, là, c'est de mieux consommer, d'économiser notre énergie. Tout le monde devrait être concentré juste là-dessus. Ensuite, il faut absolument en ajouter. Il faut savoir aussi que depuis les 15 dernières années, notre consommation d'énergie au Québec n'a pas augmenté. Okay? En 2006, on consommait 171 TWh, puis en 2020 aussi. Donc là, je comprends qu'avec la transition énergétique, ça va augmenter. On a des véhicules électriques aussi qui s'ajoutent sur notre territoire. Il faut nourrir notre batterie. Mais il faut aussi voir ces véhicules-là électriques. Vous voyez les idées qui se chevauchent dans ma tête? Mais ces véhicules-là électriques, faut pas les voir que comme énergivores. il faut aussi voir toutes sortes de batteries qui s'ajoutent sur notre territoire. Ça peut aussi être une ressource d'énergie. Alors, en ce moment, il faudrait plutôt se concentrer sur le bidule qui ferait en sorte que moi, à ma maison, je ne fais pas que charger ma voiture, mais que ma voiture peut aussi me donner de l'énergie. Donc, on travaille sur les batteries au Québec. On devrait se concentrer sur ces technologies-là plutôt que de parler encore de faire un énorme chantier hydroélectrique.
Mais Christine, il y a quelque chose qui touche à notre identité dans notre lien avec l'hydroélectricité. Et écoute, on a tous en souvenir là, la construction des grands barrages, la baie James, etc. Et quand j'ai entendu M. Legault parler de nouveaux grands barrages, je veux t'entendre là-dessus. Je me suis dit, un politicien qui veut construire des grands barrages, il nous fait rêver. Un politicien ou une politicienne qui nous dit, hey, on va faire un programme pour économiser l'énergie. Il n'y a pas de ruban à couper, il n'y a pas de photo devant un ouvrage. C'est plate politiquement.
C'est ça, c'est plate de parler de gaspillage au lieu de parler de grosses constructions, de dynamitage de montagnes, puis de coupage d'arbres, puis tout ça. Mais à quelque part, en même temps, c'est aussi de plus en plus absurde, tu sais, parce que... Puis après, c'est une affaire de valeur. Moi, c'est là, ma dernière version du J'aime gros, je finissais là-dessus, puis c'est une question de valeur. Est-ce qu'on décide, nous, comme peuple, que le peu d'espace qui nous reste de nature sauvage vaut quelque chose? Est-ce qu'on trouve que ça vaut quelque chose? Si on trouve, nous, comme peuple, que ça vaut quelque chose, bien, on arrête de toucher à ça puis on met notre énergie ailleurs, pour pas faire de jeu de mots, là, mais je veux dire, on se concentre sur autre chose. Tu sais, à un moment donné, sur la planète en entier, là, les espaces sauvages sont en voie de disparition. Là, quasiment tout a été déjà transformé par l'humain. Et donc, au Québec, on a encore quelques rivières qui sont vierges, on a encore quelques petits écosystèmes qui demeurent. Est-ce qu'on trouve ça important comme peuple? Moi, personnellement, comme citoyenne, je trouve ça important. Je pense qu'on est plusieurs à penser ça. Mais tu sais, il y a plein de façons aujourd'hui de faire de la nouvelle énergie, d'économiser de l'énergie sans affecter comme ça des territoires et des écosystèmes. Oui, on est amoureux de notre grand hydro, comme tu le dis très bien, mais en même temps, faut pas se fermer les yeux puis faire comme s'il y avait pas d'impact quand on fait ça. Là, attention, on coupe des milliers d'arbres, on en noie des centaines de kilomètres carrés de territoire, c'est pas banal. Ça aussi, ça crée des gaz à effet de serre. Là, la construction de grands ouvrages hydroélectriques crée aussi des gaz à effet de serre. Et puis là, on vient transformer quand même une rivière qui coulait avec un courant, des chutes. On le transforme ça en 4 lacs, en 3 ou 4 lacs, peu importe la rivière.
Ouais.
C'est des grands. On affecte grandement l'environnement. Alors, faut pas devenir aveugle parce qu'on aime notre expertise.
Très intéressant. Ben, c'est quoi? Je pense que je vais te réinviter pour qu'on en parle plus longtemps. Merci d'avoir été avec nous, Christine.
Ça me fait grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Réciproque. Salut. C'était Christine Beaulieu, la comédienne bien connue. Là, elle tourne dans Cérébrum saison 2. Ça va débuter le 13 septembre, mais aussi a co-créé cette pièce documentaire qui dure quelques heures, J'aime Hydro, qui explorait notre relation avec la société d'État.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, c'est l'heure de parler avec Katia Gagnon. Katia vient faire une chronique parce que, bon, oui, il y a eu une éclipse médiatique. On est en pleine éclipse médiatique due à la mort d'Élisabeth II, mais il y a d'autres choses qui se déroulent présentement. Et salut, Katia.
Salut, Patrick.
Donc, oui, vas-y, on t'écoute.
Ben écoute, savais-tu, toi, que la reine Élisabeth II a donné une seule entrevue en 70 ans de règne? Moi, je t'avoue que j'ai appris ça hier. Je pensais pas. Je pensais qu'elle avait déjà donné des entrevues. Alors, c'était pas une entrevue, en fait. C'était une conversation respectueuse avec la BBC. C'est comme ça qu'on avait appelé ça. Alors, la reine, elle avait une devise très 20e siècle, « Never explain, never complain ». Donc, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Il me semble qu'on devrait méditer tout ça, là, parce que dans notre ère d'hypermédiatisation, ça serait peut-être une bonne leçon à apprendre. Paradoxalement, la reine, elle n'a jamais vraiment parlé, mais elle a toujours été dans l'œil des médias. Et bien, sa mort, comme tu le disais, a causé une éclipse médiatique mondiale, comme si elle était la reine du monde entier. C'était vraiment fascinant. Évidemment, il y a des gens qui sont contents de cette éclipse-là. Donc, par exemple, notre premier ministre François Legault, là, qui a été content un peu soulagé, sans arrêter sa campagne, là, qui était agitée par des événements moyens agréables pour lui.
On a arrêté de parler de ses propos malheureux sur le lien extrémisme, violence et immigration.
Exactement. Ça tombait bien pour lui. Mais, comme tu le disais, il y a d'autres événements importants. Et c'est le principe d'une éclipse médiatique qui sont ainsi, donc, plongés dans l'ombre. Et l'un d'entre eux dont j'aimerais te parler, c'est ce féminicide qui est survenu hier matin, qui est, Patrick, particulièrement horrible. Donc, c'est une dame qui s'appelle Gisèle Bétondi qui a été assassinée au couteau par son ex-mari devant ses trois enfants, dont un petit bébé de 2 mois.
Oui, c'est ça. L'ex-conjoint, c'est le suspect dans cette affaire-là.
Exact. Il a été arrêté quelques heures plus tard et il vient d'être accusé de, comme Valérie le disait, dans le bulletin de nouvelles. Donc, c'est un cas classique, là, Patrick, là, ce monsieur-là, un long casier judiciaire, des événements violents, personne son parcours, 3 dossiers de violence, situation de violence avec Madame Dure depuis longtemps. Elle trouve le courage de partir. Elle a tout fait pour se protéger, notons-le. Elle a porté plainte contre lui pour menace. Monsieur a été incarcéré. Elle a obtenu un interdit de contact. Mais comme il n'y a absolument rien présentement pour faire respecter cet interdit de contact-là, ben monsieur a brisé ses conditions et il l'a tué. C'est vraiment un classique là de cas de féminicide en situation de violence conjugale. Ma réaction, Patrick, ça a été encore une autre et encore une autre qu'on aurait pu sauver. Avec l'outil dont on parle depuis des années, ce fameux bracelet anti-rapprochement. Bon, il y en a eu un de posé en juin dernier. C'est un projet pilote qu'on tarde à déployer dans l'ensemble du Québec. C'est long. Je comprends pas pourquoi, Patrick, c'est si long que ça. Là. Il y a des vies qui sont en jeu. Là. Monsieur, si on regarde les critères là, du ministère de la Sécurité publique, là, monsieur, là, il aurait eu ce bracelet-là. Qu'est-ce que ça aurait fait, ce bracelet-là? Ça aurait fait que madame, elle aurait été avertie qu'il était à proximité de l'endroit où elle se trouvait.
Cap, j'ai hâte de voir, moi aussi, là, ce que ça va avoir comme effet dans le réel, mais on peut quand même se poser la question, là, OK? Même si elle reçoit un avis, si le gars il est rendu à 1 kilomètre de chez elle, là, est-ce que la police a le temps d'arriver? Est-ce qu'elle a le temps? Elle a 3 enfants. Faut que tu packes les 3 enfants puis tu te sauves. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr, je pense que ça peut aider, ça peut alerter la police, mais ce ne sera pas une solution absolument miraculeuse, là.
Ça sera pas une solution miraculeuse, mais au moins, madame, là, elle ne se doutait pas que monsieur savait où elle habitait parce qu'elle avait changé de place. Pour ses amis, d'ailleurs, témoignaient ce matin, là, et on n'en revient pas comment ça se fait qu'il a trouvé où est-ce qu'elle était. Donc, au moins, elle aurait su parce qu'il était caché depuis un certain moment, là, dans les alentours avant de commettre le crime, là. Donc, elle aurait su, hey, attention, elle aurait été sur ses gardes. Alors, là, elle était pas du tout sur ses gardes, elle s'attendait pas à ça. Donc, tu sais, Patrick, à un moment donné, il faut là accélérer le déploiement de cette affaire-là. Comme tu dis, ce sera pas une solution miracle, ça réglera pas 100% des cas, ne soyons pas naïfs, mais en même temps, ça peut en prévenir quelques-uns. Mm-hmm. Parce que je rappelle qu'en 2021, on a eu une année record là pour les féminicides, une année noire. Donc, 26 féminicides, la vaste majorité de ces meurtres-là, c'est des situations de violence conjugale qui dégénèrent jusqu'à quelque chose de très dramatique. Et faut pas perdre de vue aussi, hein. On se centre beaucoup sur les féminicides, mais faut pas perdre de vue qu'en violence conjugale, pour un meurtre, il y a 3 tentatives de meurtre, puis il y a 3000 femmes victimes de violences physiques là, à divers degrés. Et que la moitié de ces hommes-là, en 2021, qui ont tué leur conjointe, avaient été déjà accusés de violences conjugales. Donc, tous les signes, d'alerte étaient là. Les drapeaux rouges étaient là. Et on n'a pas pu rien faire, même si les femmes, comme je repense au cas de Kaula Grissa, la dame qui avait été séquestrée par son mari, là, tu te souviens, à la pointe du couteau, oui. Il l'avait agressée sexuellement. Cette femme-là, elle avait tout fait pour prévenir ça. Et son mari lui avait dit, j'avais interviewé à l'époque, puis mon Dieu, ça m'avait... Pendant l'agression, il avait dit « Guy Turcotte, c'est mon idole ». T'imagines, elle a un enfant, cette femme-là, là. T'entends ton ex-mari dire ça pendant qu'il te menace au couteau, puis une petite fille dans l'appartement, comment ça doit être épouvantable.
Mais Katia, tu sais, t'as dit quelque chose, la moitié des accusés de féminicide avaient déjà été condamnés, judiciarisés pour ça. Il va falloir qu'il y ait une réflexion sur les décisions de remettre en liberté ces gens-là. Comme on remet en liberté des gens qui ont commis des vols à l'étalage, qui ont peut-être commis un voie de fait après une chicane pour une place de parking, il y a quelque chose de plus, disons, il y a quelque chose de plus pernicieux dans la violence conjugale.
Et les hommes qui commettent ce genre d'actes-là, qui s'étalent souvent sur des années-là, sont extrêmement persistants parfois, hein? Il est très, très difficile pour lui. Ça dure des mois, des années. Il est poursuivi, il harcèle, il trouve où est-ce qu'il reste. C'est vraiment un cas, là. On est très loin du vol à l'étalage, effectivement, ou autre crime, là, où il n'y a pas, tu sais. Là, il y a vraiment souvent, là, un désir, là, qui dure dans le temps de persécuter madame. Donc, il va falloir peut-être commencer à tenir compte de ça. Puis j'espère que la mort de Mme Bétondi, qui a eu beaucoup de malchance dans sa vie, qui est arrivée du Cameroun sous le parrainage de cet homme-là, qui a vécu une vie d'enfer avec lui, elle a eu la malchance de mourir, d'être assassinée le même jour qu'Elisabeth II. Donc, on parle pas beaucoup de ce qui lui est arrivé. Mais moi, je trouve, Patrick, que cette mort-là, qui est vraiment affreuse, devant trois enfants, un bébé, imagine ces enfants-là, comment ils vont être. Et comment ils ont été traumatisés, le plus vieux, là, je pense, 4 ans. Tu sais, souhaitons que ça soit une espèce d'électrochoc là, pour nous réveiller. Là. Puis effectivement, ça fait des années qu'on parle de ces situations-là. Il y a des moyens, il y a eu des études, il y a un plan là, qui peut être appliqué quand même assez facilement. Faisons-le.
Merci, Katia. Je te souhaite une bonne fin de semaine.
Merci à toi. Bye-bye, Pat.
Katia Gagnon du journal La Presse.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.